Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est bien l'ombre d'un échec qui plane à Bruxelles ce soir. Après deux jours d'intenses négociations et des réunions à rallonge, toujours pas d'accord entre les 27 pays de l'Union européenne pour un plan de relance des économies européennes. Doit-on s'attendre à une deuxième vague de contamination de coronavirus? Dès demain, le masque sera obligatoire en France dans tous les lieux publics fermés. Nous ferons le point sur la pandémie dans le pays. Alors qu'à l'étranger, les reconfinements se multiplient, nous irons ce soir en Colombie, qui réinstaure un confinement strict au grand désarroi des Colombiens. Nous irons également en Turquie où les migrants en route vers l'Europe font partie des victimes invisibles de la crise sanitaire, puis au Royaume-Uni qui accuse la Russie d'avoir piraté des recherches sur un vaccin contre le coronavirus. Nous reviendrons aussi sur l'enquête après l'incendie de la cathédrale de Nantes hier. Et enfin, les départements reviennent en force avec la nomination de Jean Castex à la tête du gouvernement, vous le comprendrez. Toujours pas d'accord en vue à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement jouent les prolongations pour tenter de s'entendre sur un plan de relance des économies européennes. Le sommet qui devait initialement s'achever hier soir est toujours en cours. Ça bloque sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros, des fonds empruntés au nom de l'Union européenne, ce qui est une première, puis reversés sous forme de subventions ou de prêts aux pays les plus touchés par la crise. Les pays dits frugaux, partisans de l'orthodoxie budgétaire, font de la résistance. Dans le camp adverse, France et Allemagne refusent de négocier un accord au rabais. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Laura.
Les consultations en coulisses sont en cours et le sommet lui-même n'a toujours pas repris.
Oui, cela devait être midi, puis 16h, puis 17h30. Toujours pas de réunion plénière, encore moins de fumée blanche à Bruxelles. Les négociations sont très difficiles, de l'aveu de plusieurs dirigeants. Depuis 7 ans qu'il est Premier ministre, le luxembourgeois Xavier Bettel a rarement vu des positions aussi diamétralement opposées et l'allemande Angela Merkel a ce matin prévenu, l'échec n'est pas exclu. Il faut dire que des dossiers qui s'empilent, aucun ne semble résolu, du montant global du plan de relance à l'équilibre entre prêts et dons, en passant par le contrôle des fonds versés, tout reste matière à dissension, sans oublier le respect de l'état de droit dont les pays d'Europe du Nord font une condition absolue pour tout octroi de subvention. Dans le collimateur de l'UE, justement sur le sujet, la Hongrie et la Pologne sont furieuses. Viktor Orban accuse son homologue néerlandais de vouloir le punir financièrement et de le détester.
Et de son côté, le couple franco-allemand fait monter la pression.
Oui, pas question pour Angela Merkel et Emmanuel Macron de revenir à la table avant que les pays dits frugaux n'aient donné des gages sur l'ambition du plan de relance. La ligne rouge franco-allemande, c'est 400 milliards alloués aux subventions. Déjà 100 milliards de moins qu'initialement prévu, mais il n'y aura pas d'autres concessions sur ce point, nous dit-on. Les deux dirigeants savent qu'un échec serait hautement préjudiciable à l'image de l'Union européenne auprès des opinions publiques et qu'ils en seraient tenus pour co-responsables. Ils font donc monter la pression. L'ultimatum lancé la nuit dernière au camp des frugaux n'a pas fonctionné. Reste cette fin de journée et sans doute cette nuit pour trouver les voies du compromis.
Merci Louise Baudet. S'oriente-t-on vers une deuxième vague? À l'étranger, les reconfinements se multiplient un peu partout. En France, les dernières données de Santé publique France montrent qu'en 24 heures, plus de 800 nouveaux cas ont été confirmés. Des chiffres en hausse, donc. Le gouvernement a finalement répondu à l'appel des professionnels de santé. Dès demain, ce sera masque obligatoire pour tout le monde dans les lieux publics clos, notamment les supermarchés, sous peine d'une amende de 135 euros. Bonsoir Camille Kaufmann.
Bonsoir.
Une mesure nécessaire donc au vu de la situation actuelle en France.
Oui, parce qu'actuellement, chaque malade du Covid-19 contamine en moyenne 1,2 autres personnes selon Santé publique France. La circulation du virus est donc en augmentation depuis début juillet. Alors comment expliquer cette hausse des cas? Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
À l'heure actuelle, en France, il y a deux grandes modalités d'évolution épidémique. D'une part, il y a le virus qui circule dans le territoire français depuis la première vague. Et deuxièmement, il y a des chaînes de transmission qui sont constituées à partir de cas d'importation, c'est-à-dire à partir de personnes revenant de séjour en zone d'endémie. Des binationaux, en général, ils étaient allés se confiner dans leur pays d'origine, ils reviennent avec l'infection.
En cette fin de semaine, 97 foyers de contamination sont toujours en cours d'investigation. Principales zones touchées, la Mayenne, en situation de vulnérabilité élevée, la Bretagne, où SOS Médecins enregistre le plus d'appels en France, la région PACA et la Gironde. Pour Éric Combe, le virus n'évolue pas de manière égale sur l'ensemble du territoire.
Ça s'explique par le fait que vous avez certaines villes qui se sont vidées et puis d'autres villes qui se sont remplies, notamment de touristes. Il ne faut pas croire que ce qui s'est passé à Barcelone, qui avait déjà été confiné pendant 6 semaines en mars-avril, ne se reproduira pas ailleurs et notamment en France. Nous ne sommes absolument pas à l'abri de confinements localisés mais localisé peut-être à grande échelle.
Un confinement localisé, donc, c'est une hypothèse que n'exclut pas non plus l'ancien monsieur des confinements, Jean Castex, l'actuel Premier ministre.
Merci Camille Kaufmann. Et je vous le disais, des zones qui se reconfinent sont de plus en plus nombreuses. C'est le cas en Colombie. Retour au point de départ, le pays réinstaure un confinement strict. Plusieurs villes ont ajouté des mesures drastiques pour faire face au pic de la pandémie qui a débuté mi-juillet. La barre des 6000 morts a été franchie. Medellín, par exemple, la ville qui était saluée pour sa gestion exemplaire de la crise, Medellín a refermé tous ses commerces. Les rues sont à nouveau vides. Pour les Colombiens, c'est le stress et la frustration, alors que beaucoup vivent du travail informel. Mais c'est surtout l'exaspération qui domine. C'est leur quatrième mois de quarantaine à Medellín. Le reportage de Najed Benrabah.
Nous déclarons la ville de Medellín en état de vigilance rouge à cause du Covid-19, c'est-à-dire que nous entrons dans la phase la plus dangereuse du virus.
Daniel Quintero, le maire de Medellín, annonce donc la fermeture complète du centre-ville, le couvre-feu, l'ouverture d'un nouvel hôpital dédié au Covid et seulement 4 jours de travail par semaine du lundi au jeudi. Tous les week-ends, c'est le confinement à 100% jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans le nord de la ville, Maria Regina Hernandez, 47 ans, qui vit avec son fils, sa femme et son petit-fils dans un quartier populaire, commence à perdre patience.
On est stressé car on doit payer le loyer. Et si on paye le loyer, on n'a plus d'argent pour les courses. Avant, je travaillais dans les maisons comme femme de ménage durant toute la semaine. Cette semaine, je n'ai travaillé qu'un jour. Je trouve qu'ils exagèrent avec cette pandémie.
À Medellín, les habitants doivent respecter un couvre-feu jusqu'à lundi. Les commerces sont fermés et il est interdit de vendre de l'alcool. Les Colombiens pourront sortir uniquement une fois par semaine selon leur numéro de carte d'identité pour faire les courses ou aller à la banque.
Najed Benrabah. Et eux sont les victimes invisibles du Covid-19. Les migrants à travers le monde sont particulièrement vulnérables depuis le début de l'épidémie. C'est le cas en Turquie, premier pays d'accueil de réfugiés et de migrants au monde. Pour beaucoup d'entre eux, la Turquie est un pays de transit, une ultime étape avant le rêve européen. Mais avec l'épidémie et le renforcement des contrôles aux frontières de la Grèce, la plupart se retrouvent bloqués depuis des mois dans des situations souvent éprouvantes. À Istanbul, à Nandlower.
Amadou a presque tout perdu, son travail à Istanbul, ses économies et ses rêves d'Europe, pour l'instant. Fin février, comme des milliers de migrants, ce jeune Sénégalais se précipite à la frontière grecque dans l'espoir d'un passage que font miroiter les autorités turques. Il est arrêté et renvoyé deux fois. À son retour à Istanbul mi-mars, la Turquie dépiste son premier cas de nouveau coronavirus. Le pays se confine et Amadou perd son unique revenu, 50 euros par semaine pour 78 heures de travail dans une petite fabrique de sacs.
Sincèrement, c'est dur. Voilà, c'est dur. Les ateliers sont fermés. Financièrement, je suis plat. L'épidémie a eu beaucoup d'impact négativement sur notre vécu quotidien.
Amadou, qui n'a toujours pas repris le travail, serait à la rue s'il n'avait pas croisé la route du groupe de solidarité de Tarlabacheux. Cette structure a aidé des centaines de migrants d'Istanbul à se loger, se nourrir, mais aussi à se procurer des masques et du gel hydroalcoolique. Mohamed Sadek Yachar, l'un des fondateurs.
Sur un millier de migrants rencontrés sur le terrain, un seul continue de travailler. Beaucoup ont connu la faim pendant cette période. Avec le chômage déjà élevé en Turquie qui risque de s'aggraver, les difficultés croissantes pour se nourrir et se loger, ils risquent d'être de plus en plus nombreux à tenter de gagner l'Europe.
Et ce, alors que les frontières, à cause de l'épidémie et du chantage migratoire de la Turquie, n'ont jamais été aussi contrôlées.
Anne Andlower, le gouvernement britannique s'en disait presque sûr il y a 3 jours. Il se dit désormais absolument certain de l'implication de la Russie dans cette cyberattaque destinée à voler des recherches sur un vaccin contre le coronavirus. La cyberattaque vise le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada et ne fait qu'envenimer les relations entre Londres et Moscou, Laura Calmus.
Dominique Raab, le ministre des Affaires étrangères britannique, s'est exprimé sans ménagement cet après-midi sur la chaîne Sky News.
Nous sommes absolument sûrs que les agences de renseignement russes étaient impliquées dans une cyberattaque, ici, au Royaume-Uni et à l'international, en vue de saboter ou profiter du développement et de la recherche.
La menace, qui viendrait du groupe de pirates informatiques APT-29, très connu des spécialistes, travaillerait pour les renseignements russes. Il n'a pas été confirmé pour le moment quel laboratoire de recherche est concerné ou si les hackers sont parvenus à voler des informations importantes. Parallèlement à cette affaire, le gouvernement britannique accuse également la Russie d'avoir cherché à perturber les dernières élections britanniques. Très vite, le Kremlin a répondu à ces deux accusations, affirmant qu'il n'était absolument pas responsable de ces attaques et que Londres n'avait apporté aucune preuve allant dans ce sens. Les relations entre Londres et Moscou semblent se détériorer ces dernières années, notamment avec l'empoisonnement de l'agent double Sergueï Skripal il y a 2 ans sur le sol britannique. L'affaire n'avait jamais été réellement élucidée. Moscou avait également nié toute implication, alors que Londres l'accusait d'être responsable de cet empoisonnement.
Laura Kalmus. L'Iran suspend l'exécution de 3 personnes. C'est en tout cas ce qu'annonce l'un de leurs avocats. 3 hommes impliqués dans les manifestations de novembre 2019 et condamnés à mort. La Cour suprême a accepté leur demande pour un nouveau procès. L'autorité judiciaire avait confirmé pourtant mardi dernier la peine de mort pour ces personnes. Leurs avocats espèrent désormais l'annulation du verdict. L'opposition syrienne en exil parle de mascarade à propos des élections législatives organisées aujourd'hui en Syrie, dans les zones gouvernementales de ce pays ravagé par la guerre. Des millions de réfugiés à l'étranger ne peuvent pas y participer. Ces élections sont censées élire 250 députés. Elles ont lieu tous les 4 ans et généralement le parti de Bachar el-Assad les remporte haut la main. Nasser Hariri, le chef de la principale coalition de l'opposition syrienne en exil, parle d'un parlement de façade utilisé par le régime pour faire passer des législations qui servent le pouvoir. La Syrie, je le rappelle, est ravagée par la guerre depuis 2011, guerre qui a fait plus de 380 000 morts et des millions de réfugiés. Un homme est en garde à vue après l'incendie hier de la cathédrale de Nantes. Il s'agit d'un bénévole du diocèse de Nantes de 39 ans. Il était en charge de fermer l'édifice la veille de l'incendie. Les enquêteurs veulent ainsi vérifier son emploi du temps et la façon dont il a fermé la cathédrale. Son avocat, M. Maître Quentin Chabert, a tenu une conférence de presse avant de s'entretenir avec lui. Il appelle à la vigilance et rappelle l'importance de la présomption d'innocence.
En l'état actuel de ce que je connais de la procédure, il n'y a aucun élément qui rattache directement mon client avec l'incendie de la cathédrale. S'il s'avérait que la cause n'était pas accidentelle de cet incendie, la meilleure des communautés pour pouvoir faire preuve de miséricorde vis-à-vis de l'auteur ou des auteurs de l'incendie, c'est bien la communauté catholique. C'est important aussi d'indiquer que dans ce type d'événements traumatisants qui peuvent être médiatiquement importants, on doit montrer que la justice en général, que la police aussi, intervient convenablement. C'est pour ça que je rappelle à l'heure actuelle, évidemment, la présomption d'innocence attachée à mon client et à la nécessité que la procédure soit respectée.
Maître Quentin Chabert au micro de Léo Técher. C'est peut-être le changement le plus important du quinquennat. Ces derniers jours, le Premier ministre n'a cessé de mettre en avant les territoires. Le mot a été prononcé 30 fois devant le Sénat, 25 fois devant l'Assemblée nationale. Un projet de loi organique sur la différenciation des territoires devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin juillet, avant un autre projet de loi sur la décentralisation. Jean Castex a également promis un renforcement des effectifs de fonctionnaires dans les départements dès 2021. L'échelon départemental qui fait donc son grand retour au cœur de l'organisation de l'État, Anne Fauquemberg.
Ils tiennent leur revanche, les départements, avec leurs 231 ans d'existence. Ils étaient parfois jugés obsolètes, accusés d'entretenir le millefeuille administratif. On a cru même les voir disparaître sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande, qui voulait les fusionner avec les régions ou les métropoles. Emmanuel Macron, dans son programme, souhaitait au moins en enlever un quart, mais la crise sanitaire a redonné de la vigueur à cet échelon. Dans un trio préfecture, conseil départemental, commune, explique Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements.
À l'organisation actuelle de l'État, ce sont des ministres, des administrations centrales des ministères et des grandes directions régionales. Et ces grandes directions régionales, elles ont pris l'habitude mauvaise de travailler directement avec leur ministère à Paris, parfois même avec le cabinet du ministre, sans toujours mettre dans la boucle le préfet de région et encore moins les préfets de département et encore moins les sous-préfets. Les agences régionales de santé, quelle que soit la qualité de leur personnel, sont à un niveau régional. Quand je prends l'exemple de ma région, la Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est grand comme l'Autriche ou le Danemark. Et donc, quand il s'agit de livrer des masques, ce niveau est beaucoup trop éloigné. Donc, c'est au niveau départemental que se gèrent les événements.
À l'heure de penser le déconfinement début avril, Jean Castex, alors en charge de cette tâche, a commencé par appeler les préfets et les présidents de département. Cette revalorisation de l'échelon s'articule donc dans cette logique d'un Premier ministre qui était encore, il est vrai à l'époque, lui-même conseiller départemental des Pyrénées-Orientales.
Anne Fauquemberg. On l'a appris tout à l'heure, le compositeur et producteur sur France Musique et France Culture, David Gis, est mort aujourd'hui. aujourd'hui. Il était âgé de 74 ans. Sur France Culture, David J, c'était notamment la voix des émissions Euphoria ou Libre Cours. Il a aussi co-animé sur France Musique Electromania et Electrain de Nuit. Ce soir, le ciel reste dégagé sauf près de la Manche. Les températures toujours estivales, même chose pour demain. Il y aura quelques passages nuageux au nord de la Seine avec une grisaille plus soutenue sur la Bretagne. Ailleurs, ce sera calme et très ensoleillé. Les températures demain matin, il fera 17 à La Rochelle, Lyon, Paris et Strasbourg, 15 degrés à Lille, 14 à Brest, 19 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau et Jérémy Kaufmann à la technique.